Jules Clarissy, un héros de roman. Au temps de Louis XIII, alors que M. de Schomberg, maréchal de France, était gouverneur de la province du Limousin, le bourg de Solignac, dont l'abbaye aujourd'hui est à peu près en ruine, était encore un château seigneurial, élégant et superbe, avec son donjon gothique et ses deux façades extérieures du plus charmant style Renaissance. Jean Bullant, ce maître artiste tout inspiré des chefs-d'œuvre italiens et qui avait bâti le château d'Écouen pour le connétable de Montmorency, puis, sur l'emplacement actuel de la Halle au Blé de Paris, cet hôtel de Soissons, flanqué d'une tourelle du haut de laquelle la reine Catherine, la Médicis, l'usurière de Florence, allait interroger les astres et faire de l'astrologie bizarre après de sinistres politiques, Jean Bullant avait été appelé à édifier cette magnifique demeure par le baron de Bersac, au moment où sa baronnie fut érigée en comté par Henri III. Depuis, M. de Bersac, qui n'avait jamais pris le titre de Solignac, était mort, laissant une fille dont la destinée douloureuse devait se terminer à Solignac même. Le château de Solignac était célèbre. L'admirable château qu'Antoine Fontan construisait vers la même époque en Angoumois pour le comte François II de La Rochefoucauld n'était pas plus admiré et son donjon roman était moins pittoresque. De cette demeure, il ne reste aujourd'hui nulle trace, et bien des gens soutiendront à cette heure que le château de Solignac n'a jamais existé. Ce qui est certain, c'est que l'abbaye où Saint-Éloi, qui la fonda, avait placé comme abbé un dévot personnage, Rémacle, évêque de Maestricht, qui figure à son tour dans la légende des saints, et dont on conservait à Solignac un des bras envoyé par les moines de Stavello, deux saints pour une abbaye, sans compter le corps de saint Martial, patron de Limoges, qu'on y transporta un moment, s'est transformé depuis plusieurs années en une fabrique de porcelaine. Les fours chauffent maintenant, où jadis s'élevaient mystérieux les prières et les psaumes. Quant au château, nul ne s'en soucie. Il a dû s'écrouler un beau jour, comme un château de cartes, et ses pierres ont sans doute rejoint les cailloux de la Briance, qui coulent pittoresques et clairs comme toutes les rivières au bord charmant du Limousin. Du temps où M. de Schomberg gouvernait, il fallait une heure à cheval pour se rendre de Limoges au château de Solignac. Là vivait, dans une solitude relative, entre une Italienne du nom d'Annunziata et une vieille gouvernante dame barbe, un jeune homme de noble naissance, mais romanesque, et qui, sans le tenir de ses ancêtres, portait le nom de chevalier de Solignac. 26 ans, un œil fier, une taille souple, un jarret d'acier, le chevalier, menant large vie, portant le feutre à la mode et le pourpoint bien taillé, n'avait pas d'ailleurs besoin de titre. Il en portait un, flatteur et conquérant, inventé par les femmes, accepté par les hommes. Il pouvait hardiment se nommer le beau Solignac. On ne l'avait jamais autrement. De Limoges à Bordeaux et de Bordeaux à Périgueuse, sa beauté, qui n'avait rien de fade, était passée en proverbe. L'amour avait souri à sa naissance et à son berceau. Il était grand, bien fait, avec un de ses airs souriants qui semble attirer la fortune. De longs cheveux blonds encadraient son visage coloré, et sous de petites moustaches fièrement relevées, des lèvres rouges d'un sang vif laissaient éclater la saine blancheur de dents superbes. Roger de Solignac n'avait cependant rien du bellâtre. Il fixait résolument et franchement sur les hommes et les choses son regard œil bleu, profond et doux, sans se soucier de donner à son regard une expression séduisante. Il appuyait bravement sa main gauche sur la garde ciselée de son épée, sans chercher à faire valoir l'exquise finesse de ses doigts enfermés dans leurs gants de buffle. Le charme particulier de ce beau jeune homme consistait justement dans un certain laisser-aller, dans un naturel exquis. Il plaisait par une sorte de rayonnement joyeux, par un éclat irrésistible de jeunesse, de vitalité, de belle humeur et de santé. Les envieux disaient tout bas qu'il avait évidemment reçu de l'italienne Annunziata, dont la présence au château paraissait mystérieuse, quelqu'un de ces philtres qui font aimer. Mais les seuls philtres du beau Solignac, c'était la franchise de son regard, la hardiesse de son front, le courage de son cœur et la force de son bras. Il y avait cependant en lui, il y avait sous son magnifique sourire, une cause dissimulée de mélancolie. À le bien considérer, on pouvait remarquer sur son front, à la racine du nez, un pli profond, une ride largement creusée par les réflexions douloureuses et les amères songeries. Solignac, c'était un nom de terre, c'était pas un nom de famille. Les armoiries du beau Solignac portaient, semblable à une estafilade sur la face d'un homme, une barre de bâtardise qui coupait en deux l'écusson. Le chevalier, il est vrai, ne s'en préoccupait pas à autre mesure. Il était de ceux qui, confiant dans leur propre valeur, se présentent au monde la poitrine découverte et le regard clair. S'il s'attristait parfois en repliant sa pensée sur lui-même, sur sa naissance, c'était à coup sûr beaucoup moins par colère contre le sort que par désespoir d'en avoir point connu de parents qui l'eût aimé. Et de quoi se fut en vérité plein le beau Solignac. Il était riche et du haut de son château somptueusement meublé, tapissé et orné, il pouvait apercevoir des maisons de villageois où partout son nom était prononcé avec reconnaissance. Aussi loin que ses chiens, en chassant, le pouvaient entraîner alentour du donjon, il ne risquait jamais de rencontrer une de ces bandes de pierres armoirées, se dressant comme pour dire « Ah, ici tu entres chez un autre !» Non, il était libre, il était maître, il était roi dans son domaine. Annunziata, qui se piquait d'être devineresse, répétait parfois au chevalier que le bonheur était pour lui à Solignac et non ailleurs, et que tout changerait peut-être lorsqu'il serait tenté de quitter la Bréhance pour la Seine. À ces prédictions de méchant augure, Solignac se contentait de répondre par son beau et confiant sourire. Il embrassait au front l'italienne, qu'il aimait comme une mère, et comme une mère encore jeune et toujours belle, ou bien encore il disait, en la regardant avec confiance, « En ma qualité de réformée, madame Annunziata, je crois, vous le savez, qu'aux choses appuyées sur la raison, et vos prédictions me font moins de peur que votre dévouement passé ne m'a causé de joie. Et puis quoi, la peur, qu'est-ce que c'est que cela ? Une idée, une chimère » ajoutait-il en se tournant vers un jeune homme de son âge qui lui servait d'écuyer. « Une fumée !» répliquait l'autre. Et d'Annunziata, tout en hochant la tête, était bien forcé de ne plus parler de ses craintes. Elle retournait à ses rosaires et à ses tarots et cherchait à savoir si vraiment les cartes ne se trompaient pas. Roger de Salignac était donc protestant. Sa mère, l'héritière du comte de Bersac, l'avait confié en mourant à cette Italienne qu'elle avait recueillie au lendemain de la proscription de la Galigaille et de l'exil de Marie de Médicis, et qui semblait vouloir payer en dévouement absolu au fils la dette de reconnaissance qu'elle avait contractée envers la mère. Roger n'était encore qu'un enfant lorsqu'Annunziata était entrée au château, mais il se rappelait que l'Italienne avait tout d'abord remplacé sa mère, morte bientôt d'une de ces étranges maladies anonymes qui ont les fruits mortels de la douleur. Cette Florentine, venue en France à la suite de la fille de Médicis, avec Concini et les autres, s'était éprise de cet enfant blond si beau et qu'elle avait vu, pour la première fois, souriante et fière entre les bras d'une pauvre et charmante femme souffreteuse, comme un bambino de Filippo Lippi sur les genoux de la Madone. Peut-être cette Annunziata n'avait-elle jamais aimé. Peut-être regrettait-elle au contraire quelque petite créature née de son sang et enlevée par la mort. Elle se donna, ce qui est certain, tout entière, corps et âme, à cet enfant dont Mademoiselle de Bersac lui avait confié le sort. La dernière volonté de la mourante avait été que Roger de Solignac fût élevé dans la religion réformée. Quant à elle, elle mourait catholique comme les Bersac, et la dernière de sa race, le petit Roger n'ayant point le droit de porter le titre et le nom de son aïeul maternel. Annunciata respecta le vœu de Mademoiselle de Bersac. Italienne crédule, catholique superstitieuse, elle ne croyait pourtant pas qu'on puisse se soustraire à la volonté d'un mort. Roger de Salignac grandit en huguenot, conduit au prêche de Limoges par le vieux Jacques Castoret, le serviteur de sa mère, et qui était papiste. Mais, quoique le Limousin fût alors, dans la presque totalité de ses habitants, fidèle aux doctrines de la cour de Rome, et qu'il détestât les huguenots, qui avaient tant de fois guerroyé autour de Magnac-Bourg et de Saint-Julien, le beau Solignac était aimé, et son château ne risquait point d'attirer les dangers qui menaçaient encore à cette époque les demeures des réformés. C'était au surplus un calviniste sans sévérité que le chevalier de Solignac. Quoique huguenot, le beau Roger ne croyait pas qu'il fût indispensable de porter la sombre livrée des réformés. Il affectionnait plus volontiers la soie que le buffle, et on l'avait vu, tout jeune homme, à ses débuts, guerroyer en Poitou et en Guyenne avec M. de Soubise et M. de Rohan, sans cuirasse et en pourpoint de velours. Au lendemain de la prise de La Rochelle sur les protestants, Roger de Salignac avait d'ailleurs engagé sa parole qu'il ne tirerait plus l'épée contre le roi de France, et tandis que le duc de Rohan et les députés de Nîmes et des Cévennes demandaient pardon à Louis XIII et signaient la paix de Montpellier, le beau Solignac rentrait pacifiquement dans son château, satisfait d'avoir bataillé pour sa foi, mais plus heureux encore d'avoir achevé de verser le sang français. Le chevalier avait alors 22 ans. Désormais, ce ne fut plus que contre l'étranger qu'il tourna son courage. On l'avait vu lors de l'affaire du Pas de Suse, guider à travers les neiges les gardes françaises, qui hissaient les canons du haut des Alpes, et forçait le lendemain l'épée à la main, l'entrée de la gorge que défendaient les Piémontais, avec un acharnement farouche. Trois maréchaux de France, ce jour-là, marchaient à la fois, en simples soldats, contre l'ennemi. Mais devant Schomberg, devant Bassompierre et devant Créqui, on avait vu ce jeune homme, ardent et superbe, le beau Solignac, devançant les mousquetaires à cheval, le garde suisse et la noblesse volontaire, et poursuivant jusqu'à Suse le duc de Savoie en personne, qui lui fait prisonnier de sa main, sans le dévouement d'un lieutenant espagnol qui donna sa vie pour sauver la liberté du duc. Ce n'était donc pas la seule beauté de Solignac qui le rendait célèbre, c'était aussi sa bravoure. Martial Castoret, son écuyer, qui était cependant brave, disait même souvent sa témérité. Fils d'un vieux soldat du Béarnais qui avait enseigné au beau Solignac le métier des armes, Martial, par un hasard qui n'était après tout qu'une bizarrerie, était né justement le même jour que Roger. Élevés ensemble, ensemble grandissant, le chevalier, le fils du soldat, était donc lié par une étroite communauté de souvenirs et par une profonde affection, respectueuse chez l'écuyer, affectueuse et protectrice chez le maître. Ce n'était pas tout encore, et Annunciata, qui ne renonçait pas à son goût pour l'astrologie, et qui lisait aussi facilement dans les lignes de la main que dans les mouvements des astres, la destinée des mortels, Annunciata avait vu clairement, vu, lu et prédit, que dès le même jour, Roger de Salignac et Martial Castoret mourraient le même jour. « Monsieur le chevalier, disait alors Martial avec un air de conviction profonde, lorsque Roger prenait son cheval du côté des lignes espagnoles, « Monsieur le chevalier, si ce n'est pas pour vous, soyez du moins prudent pour moi. Votre écuyer tient à la vie. Mais le beau Solignac se mettait à rire, d'autant plus que parfois son écuyer le devançait dans l'attaque et s'enfonçait plus rapidement encore dans les rangs ennemis. Puis l'un et l'autre revenaient poudreux, déchirés, nacrés de salpêtre, couverts de sang, mais non blessés, et bravant le fer et le plomb avec un de ces bonheurs insolents qui font croire à la vertu des amulettes et à l'invulnérabilité de certains êtres. Ce temps des guerres était, il est vrai, à demi passé, et le beau Solignac goûtait depuis une longue année au moins le calme bonheur du repos, lorsqu'on l'avait vu partir un matin à cheval, équipé comme pour un long voyage et suivi de Martial Castoret, les pistolets de guerre dans les fontes. Il n'était cependant pas à cette heure question de bataille prochaine, et l'on ne pouvait croire que Roger de Saint-Lignac partait pour combattre les Turcs-Ormands ou le grand diable d'enfer. Alors s'ennuyait-il donc en sa demeure? Certes non, Solignac n'était pas de ceux que la solitude effraie. Dans ce grand château à demi-gothique, il restait seul avec son écuyer Martial, Annunciata et Dame Barbe. Il le lisait lorsque la pluie tombait au dehors dans de grands in-folios aux reliures fauves. Il chassait lorsqu'il faisait beau, sous les châtaigniers pleins d'ombre ou dans les champs pleins de soleil, heureux de humer l'air des bois, de sentir le vent caresser ses cheveux tandis qu'il éperonnait son cheval ou de marcher dans l'herbe fraîche, tandis que chaque grappe couleur de lilas, des bruyères, laissait tomber une gouttelette sur ses larges bottes de cuir. D'autres fois, le Sylvain se faisait citadin, se rendait à Limoges aux fêtes de M. Philippe de Pompadour, lieutenant du gouverneur, et étonnait par sa bonne grâce, sa tournure élégante, son sourire et la façon dont il dansait, les vieilles chaconnes, les belles et les fraîches limousines. « Mais comment faites-vous, chevalier, pour n'avoir pas le temps à aller ?» lui répétaient les nobles dames. « Phébus est pour vous d'une clémence infinie. » « Ben, c'est que je lui donne franchement mes deux joues à baiser. Et comme il est bon maître, il n'en abuse pas, » répondait Roger. « Vous savez donc point que le grand air est un meilleur parfumeur que tous les vendeurs d'essence et de pâtes de la chrétienté ?» Et chacun et chacune d'admirer et de choyer ce beau Solignac qui dansait si bien, après avoir si bien guerroyé. Solignac ne pouvait donc point quitter le Limousin par dépit ou par ennui. Il n'y laissait, il est vrai, aucune amante, mais il n'y avait trouvé aucune déception. S'il partait, c'était qu'un but important l'attirait hors de la province. On parla beaucoup à Limoges de ce voyage assez soudain, qui coïncidait justement avec une maladie fort grave de l'italienne Annunciata, celle des grandes dames qui avaient servi de marraines à Roger et lui avaient décerné le nom de Beau Solignac, eurent au fait d'inventer un roman plus ou moins vraisemblable, dans le goût de l'astrée, des aventures de Céladon et de l'étrange seigneur. On répéta tout bas que le chevalier était attiré à Paris par quelque amour puissant contre lequel il luttait depuis plusieurs années. On nommait, sous le sceau du secret devenu bientôt le secret de la ville entière, le nom de celle qu'il adorait, le beau Roger. Et plus d'un cœur féminin battait de jalousie, et plus d'un grand œil amoureux, noir ou bleu, se voila à ces récits d'une ou deux larmes amères. Puis on essuya les pleurs, on étouffa les soupirs, on s'occupa des contestations élevées entre l'abbé et les chanoines de Saint-Martial, des sorciers et sorcières exécutés à Limoges, et de la procession superbe en l'honneur de l'entrée de Monseigneur François de Lafayette, mis au rang des évêques, et du beau Solignac, il ne fut plus question. On l'avait non pas oublié, mais lorsqu'un soir de septembre, comme le soleil se cachait, la superstition des habitants et des moines de Solignac fut grande en voyant arriver lentement, par le chemin de Limoges, un carrosse attelé de deux chevaux marchant à pas comptés, tandis qu'à côté du char tout poudreux, Martial Castoret, monté sur son cheval de guerre, ramenait, attaché à sa selle, le cheval de bataille du chevalier Roger de Solignac. Ce groupe inattendu s'avançait vers le bourg avec une lenteur funéraire, et les premiers qui l'aperçurent, se détachant sur le soleil rougi qui allongeait démesurément les ombres de Castoret, du carrosse et des chevaux, s'ils écrièrent d'un premier mouvement « Oh, le beau Solignac est mort! Est-il donc mort ?» demandèrent les braves gens à Castoret en courant au-devant de l'écuyer. Le brave Martial hocha la tête. « Non, dit-il, monsieur le chevalier n'est pas mort. » Mais le ton dont ces paroles furent prononcées était si triste que chacun eut, dès ce moment, la conviction qu'un malheur était arrivé. Alors, un ou deux curieux, en montant sur les talus ou les pierres, se hasardèrent à jeter un regard dans l'intérieur du carrosse. Et là, étendu à côté d'un homme vêtu de noir, dont un grand col de toile blanche tranchait sur le sombre pourpoint, ils aperçurent, pâle, maigre, l'œil fixe et morne, avec des cheveux blancs aux tempes, dit une commère désespérée, celui que quelques mois auparavant encore on appelait le beau Solignac. Le beau Solignac semblait revenir au château comme le gibier blessé à son gîte, comme l'oiseau mourant à son nid. Il y avait déjà, dans le pas lent et lourd des chevaux qui le traînaient, quelque chose de sépulcral. L'homme qui se tenait auprès de lui, assis et couvrant en quelque sorte de l'œil le visage émacié du chevalier, était un médecin. Martial Castoret remarqua, dans la foule à peu près accourue, quelques gens effrayés qui faisaient des signes de croix, comme devant un mort. Les curieux, les enfants, les commères et les moines se rangèrent silencieusement, respectueusement, pour laisser passer le cortège. Le dos courbé, la mine creuse et assombrie, Martial Castoret rendait, sans dire mot et d'une main lasse, les saluts qu'on lui adressait. Stupéfaits, les gens de Solignac regardaient le carrosse monter, lugubre et silencieux, la côte qui menait au château, dont les vitres au soleil, couchant, semblaient saignantes, ou plutôt rougies par un incendie. Les deux chevaux, dont l'un était monté et l'autre traîné par Castoret, butaient tristement à chaque caillou, comme s'ils eussent compris l'inutilité de marcher et de vivre. Arrivé à un coude formé par la route, le cortège disparut derrière les châtaigniers, et les bonnes gens, demeurés sur le chemin, se regardèrent avec les yeux agrandis de gens qui viennent d'apercevoir quelque effrayante apparition. Le soir même, à Limoges, chez M. de Tannoy, chanoine et official, le bruit courait déjà que le beau Solignac, moribond, vieilli de 10 ans et méconnaissable, était revenu au bord de la Bréhance pour y rendre le dernier soupir. « Ce n'est pas ainsi pourtant, dit une des anciennes marraines du chevalier, que doit finir un gentilhomme. » Jamais retour au pays natal n'avait été aussi sombre que celui du chevalier. Ce fut sur les épaules du médecin qui l'escortait, le Castoret, qu'il s'appuya pour descendre du carrosse. Le malheureux était maigre et livide et ses jambes se dérobaient sous lui. D'ailleurs, silencieux et résolu, il ne dit qu'un mot, il ne prononça qu'un nom, « Annunciata !» Et alors, comme un spectre répondant à un spectre, une figure de femme apparut que Roger considéra avec stupeur, et Martial avec effroi, une figure dont les yeux seuls étaient vivants dans un visage blême, et qui répondit d'une voix faible, soudain raffermie par un violent effort. « Me voici, caro mio. Je n'attendais plus que toi pour mourir. » D'où venait ainsi brisé le beau Roger de Solignac, et quelle épreuve inattendue Quel terrible roc d'achoppement avait-il rencontré en chemin ? 4 mois auparavant, un soir d'été, comme le ciel étincelait, criblé d'étoiles, Annunciata avait fait monter Solignac sur la plateforme du donjon où elle restait parfois durant des nuits entières, ses grands yeux noirs fixés sur les astres. « Mon enfant, lui avait-elle dit, je vais te révéler le secret de ta naissance et je vais te dicter ton devoir. » Jules Claresi.